monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission que j'ai le plaisir d'animer avec le rabbin Haïm Korsia sur les mots de la Torah. Haïm Korsia, aujourd'hui, j'aimerais que vous nous parliez de cette expression que je trouve un peu curieuse, qui me surprend et qui se trouve dans le début du livre de la Genèse. On dit que Dieu a fabriqué l'homme à son image. Parlez-nous de ce mot « image ». Est-ce une bonne traduction d'abord ?
Oui et non. C'est vrai qu'il y a le mot « tselem », c'est l'image, c'est la ressemblance, enfin « demut Elohim ». Il y a les deux. Il y a l'image et la ressemblance. Deux concepts un peu différents, mais finalement relativement proches, mais essentiellement différents. Qu'est-ce que c'est la ressemblance ? C'est la capacité d'action. Finalement, Dieu est celui qui peut tout. L'homme étant créé à l'image de Dieu, il peut tout. Quand vous pouvez tout, vous êtes responsable de tout. C'est une façon de dire que de la même façon que Dieu a la possibilité de changer le monde, l'homme a la possibilité de changer le monde, de transformer le monde. Ce qui veut dire que j'aime bien cette image, j'allais dire, j'aime bien cette image d'un enfant qui un jour s'adresse à son père et lui dit « Papa, est-ce que nous sommes tous les mêmes ou est-ce que nous sommes tous différents ?» Et le père lui répond « Vois-tu mon fils, nous sommes tous les mêmes puisque nous sommes tous à l'image de Dieu et nous sommes tous différents puisque nous sommes tous à l'image de Dieu qui lui est unique. » Et il y a quelque chose là de très fort dans, non pas une sorte d'anthropomorphisme à l'envers, parce que l'anthropomorphisme, traditionnellement, c'est Dieu qu'on habille, si j'ose dire, des spécificités humaines. Dieu a le bras long, c'est comme c'est marqué dans la Bible.
Dieu est masculin, d'ailleurs, je vous fais remarquer. Hein.
Non, pas toujours. Dans le Cantique des Cantiques, ça se joue.
Voilà.
Dans le Cantique des Cantiques, c'est un peu plus féminisé, cette histoire.
Alors, revenons au mot image.
Mais dans l'image, c'est le même principe. L'image, si vous voulez, si vous acceptez l'idée que Adam a été créé homme et femme, comme c'est écrit dans la Genèse, on a donc un Dieu qui est masculin et féminin. Et vous voilà pris à défaut pour la première fois de la connaissance des textes, même si traditionnellement Dieu est présenté au masculin, mais il n'y a pas de genre pour Dieu. Je crois que l'idée de l'image, c'est vraiment cette capacité des hommes. Maintenant, si on prend toutes les spécificités de Dieu, ça veut dire que nous avons aussi ces spécificités. Dieu parle et le monde est. Puisqu'en fait, le monde est créé par la parole de Dieu.
Par le verbe,
par le verbe. Le verbe, alors pour les chrétiens,
c'est le verbe
qui s'est fait chair.
Les chrétiens, voilà, absolument.
C'est le verbe, c'est l'évangile pour les chrétiens. Mais chez nous, il y a le même concept, c'est-à-dire que Dieu parle et le monde est.
Et la parole crée, voilà.
Voilà, oui. C'est une parole créatrice, en fait. Est-ce que les hommes n'ont pas une parole créatrice ? Est-ce qu'on n'a pas vu déjà des carrières et des hommes s'effondrer ?
Créatrice et destructrice, voilà.
Quand il y a un côté,
il y a
toujours le côté,
forcément l'autre côté.
Pendant. Et le pendant, c'est la destruction. Et les commentaires disent, l'homme, par la parole, est capable de tuer ou de faire vivre. C'est une immense responsabilité. L'homme est capable de tendresse, l'homme est capable d'amour, l'homme est capable de haine, l'homme est capable de colère, l'homme est capable de tout ce dont on voit Dieu porter. Dieu porte cette humanité, puisque finalement, nous ne sommes que les gérants d'un monde créé par Dieu. Donc nous sommes forcément les porteurs de ce qui a animé Dieu quand il a créé ce monde. Et c'est en cela que l'homme est à l'image de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on doit tirer un orgueil particulier par rapport, aux chimpanzés, aux chiens et aux chats d'être à l'image de Dieu, contrairement à eux ? Je crois que c'est pas tellement dans le physique que ça s'exprime, mais c'est dans notre capacité à nous projeter dans une histoire qu'on va créer, qu'on va espérer. Voilà. Ce dont je ne suis pas certain que les animaux soient capables, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que c'est
on montrera ça aux académiciens des sciences.
Voilà.
Alors, Haïm Korsia, cette expression « l'homme à la ressemblance de Dieu » ou « l'homme à l'image de Dieu », on la trouve dans la Genèse. Est-ce qu'on trouve le mot « image » ou le mot « ressemblance » dans d'autres livres de la Torah ?
Bien sûr, dans l'Exode, très connu, dans les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne feras pas d'image.
Tu ne feras pas d'image, c'est une interdiction.
Il y a une interdiction de faire une représentation de Dieu. C'est-à-dire, en fait, une représentation de Dieu. En fait, c'est l'idolâtrie, d'adorer quelque chose. Maintenant, est-ce que vraiment c'est l'idolâtrie, une belle statue de Rodin ? J'en doute. Certains, dans le judaïsme, vont jusque-là. Certains vont jusqu'à interdire toute représentation physique. C'est-à-dire un tableau, je ne sais pas moi, un Renoir chez eux serait incongru. Mais d'autres, dans le judaïsme, ne peuvent pas prier s'ils n'ont pas 3 photos de leur rabbi au mur.
Oui, il y a des courants un peu différents, ça
voilà.
Veut dire que...
Moi, je pense que, comme tout, la vérité est probablement au milieu. Je pense que d'avoir une forme de déification de quelqu'un avec sa photo partout, ça devient gênant pour se rappeler à qui on prie. Et vous noterez d'ailleurs que tous les systèmes...
Totalitaires,
néfastes pour l'homme...
Détruisent les images.
De manière concomitante, détruisent toutes les images, sauf celle du, alors on
dictateur,
peut l'appeler...
Dictateur,
voilà, conducateur,
oui.
Fureur, Duce, etc. lumière des Carpates, enfin, appelez-la comme vous voulez. Mais celui dont on garde seule l'image. Et là, on comprend le poids de l'image. D'ailleurs, il y a un magazine célèbre qui a bâti sa publicité sur le poids des mots, le choc des photos.
Voilà,
comme si, et c'est peut-être ça ce que craint la Bible dans l'image, c'est-à-dire que Si nous sommes, nous les hommes, à l'image de Dieu, c'est qu'on a une responsabilité sur le monde. Or, l'image empêche la réflexion. Parce que, vous voyez bien, le choc des photos. C'est-à-dire qu'on le voit bien, 5 secondes à la télé a plus de poids, une image choc, empêche toute réflexion parce qu'elle marque bien plus profondément que l'intellect. Elle marque quelque chose de, dans le subconscient, d'où l'importance de la télé et sa gravité, mais ça, d'autres comment pourraient vous dire mieux que moi. Le judaïsme est très attentif à l'intégrité intellectuelle de l'homme, et c'est vrai qu'il est prudent quant aux images, parce que de tout temps, l'image a empêché l'homme d'aller dans son chemin, qui est un chemin intellectuel, un chemin réfléchi.
Oui, et en même temps, tout un enseignement peut passer par les images, par exemple à des époques où gens ne savaient pas lire ni écrire, évidemment, l'image enseignait, enfin c'est le but des peintures, des fresques, des mosaïques qu'on trouve dans la religion chrétienne. Est-ce qu'on trouve aussi des images dans les synagogues anciennes, par exemple?
Oui, évidemment, il y a beaucoup d'images, mais sans aller dans les synagogues anciennes. Aujourd'hui encore, on enseigne aux enfants comment?
Oui.
Avec les images. On a tous à l'esprit les images qu'on avait quand nous étions petits, la tour de Babel, ces images un peu de notre catéchisme commun, si j'ose dire, ces images saintes, qui nous marquent bien plus durablement d'ailleurs que tous les commentaires. Et c'est très difficile, je me rends compte moi qu'avec les adolescents, il y a un travail très fort, très pointu à faire pour retirer de leur esprit cette image qui est permanente, et pour leur donner une image plus précise, donc forcément plus nuancée,
plus intérieure,
de l'histoire.
Plus, oui, voilà. Absolument. Haïm Korsia, il y a des images tout de même dans la Bible qui sont restées dans nos mémoires, en effet, celle du veau d'or, celle du serpent des reins. Alors que doit-on penser de ces images?
Voilà, je vois que vous êtes vraiment très pointu aujourd'hui. Le veau d'or, bon, c'est connu, mais le serpent des reins, c'est quelque chose d'assez étonnant, qui relève à mon sens du même principe que le veau d'or. Le serpent des reins, c'est les Hébreux dans le désert sont attaqués par des serpents de feu. Et Moïse fait quelque chose d'incroyable, il fait une statue, sous l'ordre de Dieu. Dieu lui fabrique un serpent des reins, met-le au bout d'une pique, et lève-le, et quiconque verra, lèvera les yeux et le verra, sera mordu mais ne sera pas mort.
Un antivenin.
Un antivenin. Et les commentaires disent, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a forcés à lever la tête vers les cieux. C'est-à-dire à lever la tête. Dès qu'un homme lève la tête, il retrouve sa condition humaine. Et en fait, là, peut-être, on comprend ce qu'il a fait. L'image nous donne le sentiment d'être un véhicule vivant, comme le veau d'or, qui semblait être pouvoir vivant, ramener les Hébreux en Égypte. C'est ça la vocation du veau d'or. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est comme l'avait dit Avraham, c'est une idole qui ne bouge pas, qui n'est même pas capable de se défendre. Si on lève la tête, si on redevient un homme debout face à son créateur, on se rend compte de l'inanité des images et de l'inanité des images qu'on se construit. Et peut-être que la méfiance que la Bible a envers les images, c'est justement parce que l'homme est fait à l'image de Dieu et qu'au bout d'un moment, il en viendrait forcément à faire une image de lui-même, d'effacer l'image de Dieu qu'il y a derrière tout homme et de faire une image de l'homme. Et on arriverait à la pire des idolâtries, c'est l'idolâtrie de l'homme par l'homme. Et c'est peut-être ça la grande peur du judaïsme.
Avec Haïm Korsia, nous évoquions donc le mot « image », un des mots de la Torah. Et c'est sur cette conclusion que nous allons nous donner rendez-vous pour une prochaine chronique. Haïm Korsia, merci.
Au revoir.